Gloire à Dieu. Nous prenons Jean 5. Au verset 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Le Seigneur dit, celui qui croit en lui et en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle et ne passe pas en jugement. Donc, il parle d'un jugement. Donc, il y aura un jugement. Et aujourd'hui, je veux parler de la certitude de ce jugement-là. Parce que parfois, ça passe comme une légende, ça passe comme un film de science-fiction. Mais ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Jésus dit, celui qui croit en moi ne passe pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi le jugement? Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec les morts spirituels, il ne peut pas cohabiter avec eux. Et il faut qu'il y ait un jugement pour que ceux qui ont la vie, parce qu'ils auraient choisi Dieu, puissent aller dans le lieu de vie, et ceux qui ont choisi la mort, parce qu'ils n'aiment pas Dieu, puissent aller dans le lieu de perdition éternelle. Nous lisons Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Il est écrit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà ce qui est écrit. On nous parle du jugement dernier et des livres seront ouverts et les œuvres de chacun seront citées, seront montrées à tous. Et il y a un livre dans lequel il y aura des noms. Et ces noms-là, ça sera les noms de ceux qui auront la vie, qui iront au ciel, au paradis. Et ceux dont les noms ne seront pas dans ce livre-là, iront dans les temps de feu, éternel, qui ne finit jamais. Imaginez brûler éternellement. C'est une réalité. C'est écrit dans la parole. Et pour clôturer cette première partie, nous lisons Luc 16. La Bible dit ceci. À partir du verset 19. Et il faut savoir que ce texte que nous allons lire, on ne commence pas en disant Jésus leur raconta une histoire ou bien une parabole. On ne nous dit pas que c'est une histoire, c'est une parabole pour faire comprendre aux gens. Jésus parle normalement, comme on parlerait à quelqu'un. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche. Et tandis qu'il était en proie aux souffrances, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens, tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les souffrances, les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand fossé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Donc ils ont la parole de Dieu, qu'ils écoutent. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Alors, dans ce texte, le Seigneur veut nous rappeler que ce n'est pas une blague, l'histoire d'enfer, du feu éternel, c'est une réalité. Il veut nous rappeler que c'est une réalité et qu'il y a des gens qui se retrouveront dans le feu éternel et enlever des rideaux dans la salle d'attente. Ça s'appelle l'enfer, le séjour des morts où on souffre déjà avant le terminus qui est le feu éternel. Et il y a des gens qui vont se retrouver au paradis avant le terminus, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville que Dieu va créer. Alors, le Seigneur veut nous dire, ben, ça existe. Ce n'est pas une blague. Parce que nous-mêmes, on se crée des raisonnements pour écarter le fait que l'enfer, le feu éternel, la punition éternelle existe. On se dit, mais Dieu est bon quand même. Oui, il est bon. Et s'il est bon, la bonté impose d'être juste et de punir le mal. Donc Dieu punira le mal. Dieu est bon, mais il est sans tâche. Il ne peut pas cohabiter avec le mal. Donc le mal sera détruit. Alors, à cela, je dis souvent, ben, si vous êtes si bon, alors ne détruisez pas vos ordures. Donc quand vous avez fini de jeter les couches des enfants dans la poubelle, les pots de bananes, ayez pitié de tout ça quand même. Vous avez mangé la banane. Ayez pitié de la boîte de conserve de tomates que vous avez utilisée. Ayez pitié de tout ça. Ne jetez pas. Dormez avec et cohabitez avec cette poubelle-là. Chacun dira, ben non, c'est sale. Ben voilà, Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Si toi, tu ne veux pas cohabiter avec ta poubelle, tu ne peux pas imposer à Dieu de cohabiter avec le péché ni avec le mal. Et le mal sera détruit, sera consumé. Bien-aimé, c'est une réalité. C'est l'avertissement de Dieu. Et la Bible nous montre que tous les signes sont là qui montrent que la fin du monde approche. Les signes sont là. Et seuls les têtus ne veulent pas voir cela. Mais les signes sont là. Et ma prédication, je vais insister sur la négligence de ce concept-là. Le feu éternel, l'enfer. Il ne faut pas négliger ça. C'est une réalité. Je vais insister sur autre chose, sur le fait, sur tous nos raisonnements qu'on se met en nous-mêmes pour vouloir diminuer la réalité de cela. Et cet exemple, cette parabole nous donne un exemple. C'est un homme qui dit à Abraham qu'on envoie des gens qui sortent de la mort. Quand eux, ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie, ils vont parler, ils seront crédibles. plus que les prédicateurs qui parlent comme nous, tout simplement comme ça. Et Jésus, Abraham répond, non, s'ils n'écoutent pas la parole, ils ne pourront pas non plus écouter, même quand c'est quelqu'un qui sortira de la mort. Parce que dans la parole, Dieu a déjà mis tout ce qu'il faut pour que quelqu'un croie. Ce n'est pas parce que ça serait un ressuscité qui va prêcher la parole que les gens croiront. Parce que s'il fallait croire ainsi, eh bien, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a ressuscité les morts. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a multiplié les pains. Quel miracle n'a-t-il pas fait? Mais à la fin, les gens ont dit, crucifie-le. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc, c'est un des raisonnements qu'on se donne en se disant, ben, il faut beaucoup plus de convictions, il faut beaucoup plus de preuves pour que les gens croient. Dieu dit non, j'ai déjà tout dit dans ma parole. Tout est dans ma parole. Bien-aimé, le jugement aura lieu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu a donné les avant-goûts par rapport à Noé. Il a dit aux gens, entrez dans l'arche pour être sauvés du déluge. Les gens n'ont pas écouté et Noé a été seul avec sa famille à être sauvé. Dieu nous donne, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, il est question du jugement dernier. Bien-aimé, que ne te trompe pas, ne te fais pas des raisonnements. Comme cet homme-là devait s'être fait des raisonnements quand il était vivant. Il devait se dire, bon, la religion c'est bien, ça nous aide à être propres sur terre, conformes aux lois, aux règles. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça. La réalité c'est que si tu n'entres pas dans l'arche, le déluge va te submerger. Quelles que soient tes pratiques sur terre, tu peux toujours être correct, faire ce que tu veux de légal. Mais si tu n'entres pas dans l'arche que Noé avait ouverte, avait construite, eh bien, tu n'allais pas être sauvé. Et la parole nous dit, si aujourd'hui tu n'entres pas dans Jésus, si Jésus n'est pas ton sauveur, si tu n'acceptes pas qu'il ait payé pour tes péchés, ben tu n'es pas sauvé. Peu importe le fait que tu respectes les feux rouges, peu importe. Si Jésus ne te sauve pas, tu n'es pas sauvé. Jésus est le moyen que Dieu a choisi pour sauver tout homme. Nous allons y revenir. Le jugement, bien-aimé, est une réalité. Ne nous mettons pas des excuses pour nous-mêmes ni pour les autres. Parfois, on fait même des excuses pour les autres. On se dit, mais ah, j'ai un ami. Si vous voyez son comportement, vous allez dire que c'est un chrétien, quoi. Mais il n'est pas chrétien. Mais il est bon, juste, serviable, plus que même les chrétiens. Moi, je ne crois pas que lui, il ira en enfer quand même. Oh, bien-aimé, tu veux créer une nouvelle Bible? Tu veux créer une nouvelle religion? Il n'y a qu'un seul chemin, la Bible nous dit. C'est Jésus. C'est comme une porte. Même si tu es très bien habillé, si on ne t'ouvre pas la porte, tu n'entres pas à la fête. Il faut que la porte s'ouvre. Et cette porte-là, c'est Jésus. Donc si tu te présentes à la fenêtre, on ne t'ouvre pas malgré ton habillement. C'est ça la réalité. Et on se fait des excuses. Mais c'est un musulman, mais vraiment, il est serviable, il est bon. Un tel, c'est un catholique, mais vraiment, bien aimé. Dans la Bible, il n'y a pas de mais vraiment, un tel, c'est... Il n'y a pas ça dans la Bible. La Bible dit que Jésus-Christ est la porte des brebis. C'est la porte, bien aimé. Tes raisonnements que tu te donnes là, que tu te fais pour excuser tes amis, tes cousins, tes frères, et pour t'excuser toi-même, tu ne les verras pas dans la Bible. Dans la Bible, on ne dit qu'une seule chose. L'homme est perdu et Jésus est la solution. Vouloir créer autre chose que cela pour se sortir d'affaires, c'est une tromperie totale. C'est comme si quelqu'un s'achetait un billet fabriqué par une imprimerie du coin de la rue pour aller prendre l'avion, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'il y a, tu ne passes même pas la première barrière des soldats qui sont à l'aéroport. Tu ne passes même pas. Tu viens avec ton faux passeport construit par ton cousin, fabriqué par ton cousin, mais tu ne passes pas. Il y a les moyens qui sont tels qu'il suffit qu'on fasse passer par une machine, on voit que c'est un faux passeport. Bien-aimé. Ne te fais pas de faux raisonnements. Ne cherche pas à justifier les autres en disant, bon, c'est vrai, il y a tellement le mal dans le monde, il y a tellement de choses dans le monde, les gens ne sont plus concentrés. Quand même, pour croire en Dieu, il faut être concentré, il faut bien aimer. C'est faux. Nous, quand on était dans le monde, moi, quand j'étais dans le monde, il suffisait de me regarder pour voir quelqu'un de distrait. Donc, qui n'avait pas la tête à sa place, quoi. Donc, c'est tête en l'air, penser à tout et à rien en même temps, faire tout et rien en même temps. On ne pouvait pas croire qu'une telle personne puisse se convertir. Mais les gens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais des moments où j'étais seul. Et dans ces moments où j'étais seul, je réfléchissais. J'ai regardé les étoiles, j'ai regardé la lune, je disais, ah, Dieu existe. Ça, tu ne peux pas le savoir. Tu vas seulement me voir dans un milieu où je m'agite. Mais en réalité, Dieu parle à chacun. Aucune personne n'est excusable. Ne cherchons pas des excuses en disant, mais oui, mais ils avaient un mauvais prédicateur. Oui, ils avaient un mauvais prédicateur, mais ils avaient une bonne Bible. Et la Bible, c'est la vérité. Et le Saint-Esprit est une réalité. Et le Saint-Esprit parle, il convainc chacun. La Bible dit dans Jean 16, 8, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Voilà. Dans certains pays, même parfois, le mensonge est légalisé. Donc on peut mentir, c'est considéré comme assaisonner un peu de sel les choses. Mais je peux te dire que dans la Bible, le mensonge n'est pas appelé du sel ni du piment. Le mensonge est un péché grave, à tel point que le diable s'appelle, diable ça veut dire menteur. Donc vous vous imaginez comment c'est grave pour Dieu. Si son ennemi l'appelle menteur, alors le mensonge c'est quoi pour Dieu? Alors il y a des gens qui sont là pour dire, mais non, si j'avais dit la vérité, ça allait tourner mal. Mais bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La Bible ne dit pas que la vérité fait mal tourner les choses. Il ne faut pas changer la Bible. Il y en a qui disent, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est faux ça. Toute vérité est bonne à dire. Mais le Saint-Esprit va nous amener à dire ça au bon moment. Mais toute vérité est bonne à dire. Et on veut se créer des faux calculs pour échapper à la véritable vérité qui est la Bible. Bien aimé, le jugement de Dieu est une réalité. Et Jésus, c'est Jésus qui décrit, les gens disent, mais, ah oui, les gens ne comprennent pas. La Bible, c'est Matthieu 5, heureux les pauvres, heureux. C'est, bien aimé, c'est celui qui a dit heureux les pauvres, heureux les persécutés. C'est celui-là qui raconte cette histoire-là réelle, hein, qui montre comment cet homme-là avait tellement soif. Ce n'est pas encore le feu éternel, c'est juste l'enfer, juste le séjour des morts, mais du côté des mauvais. Donc, juste ça, comment cet homme-là avait soif à tel point qu'il avait besoin juste d'une goutte d'eau. Mais il ne pouvait pas, c'était trop tard. Bien-aimé, le jugement est une réalité. C'est une réalité. Ne nous amusons pas. Il y a beaucoup de gens autour de nous qu'on devrait sauver, mais on ne les sauve pas parce qu'on s'excuse, on les excuse. On dit non, il est gentil quand même. C'est quelqu'un qui est sociable. Mais nulle part c'est écrit que quand puisqu'on est sociable, on ira au ciel. Mais il est gentil. Toi, tu connais ce qu'il fait en secret. Tu ne connais pas. Bien-aimé, Dieu nous appelle à fuir le jugement. Vous savez, il y a expression et expression. Au départ, Dieu nous appelle à choisir. Mais à un certain moment, il dit, fuyez. Matthieu 3, Jean-Baptiste dit aux gens qui viennent le voir, il dit, qui vous a appris à fuir le jugement, la colère à venir? Effectivement, bien aimé, quand il y a la guerre, on ne raisonne plus. Ah tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme bagage, comme livre pour aller lire en chemin? Voilà. Donc, Dieu nous appelle à aller quelque part. Ça peut pour toi tomber que tu as le temps de choisir qu'est-ce que tu vas prendre comme bagage, livre, tu as le temps de méditer tout ça. Mais nous sommes dans un temps où tu n'as même pas le temps de ça. Tu sais que tu dois aller à Hambourg, en Allemagne, et que si tu ne commences pas à démarrer maintenant, eh bien, les bombes de l'ennemi vont t'avoir. Et donc, sans regarder quel livre, quel vêtement tu vas amener, tu prends de l'eau, du jus, quelques biscottes, tu t'en vas. Voilà le niveau dans lequel nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à un niveau où le mal fait une telle pression. Les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde font une telle pression que nous sommes arrivés au temps de la fuite. Donc, le chrétien n'a plus à réfléchir, à dire, bon, qu'est-ce que je peux concéder, qu'est-ce que je peux... Mais comme certains discutent pour tout et rien, est-ce que la loterie, c'est un péché, ou est-ce que... Bien-aimé, nous sommes dans un temps où on n'a même pas le temps de méditer, de faire des débats théologiques. Est-ce que les anges sont masculins ou féminins? Est-ce que la loterie, c'est ceci, cela? On est dans un temps où de se poser la question, qu'est-ce qui est utile pour Dieu dans ma vie? On n'est pas dans le temps de discuter, est-ce que, la télévision, telle chaîne? On n'est pas dans ce temps-là. On est dans le temps de discuter, mon temps va me servir à quoi pour Dieu? Mon temps, je le consacre à Dieu. Un point, c'est tout, parce que les temps sont durs. Les temps sont tellement durs qu'il faut être davantage proche de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 22. Les temps sont durs. Que celui qui fait le mal fasse davantage le mal. Parce qu'à quoi ça sert de faire un peu seulement de mal pour se retrouver en enfer? Autant faire davantage. Comme ça, tu es vraiment en enfer, rassasié du mal que tu as fait. Et la Bible dit que celui qui fait le bien fasse davantage le bien. Parce que la pression est beaucoup plus forte. Et chaque jour, nous devons nous accrocher à Dieu. Chaque jour, parce que la pression est davantage forte. Nous vivons des temps très très difficiles. Le temps dont l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens, c'est en disant que celui qui a une femme vive comme s'il n'avait pas de femme. Que celui qui a un mari vive comme s'il n'en avait pas. Parce que les temps sont difficiles. Le fait de réfléchir dans ta tête, ben j'ai tel compte, j'ai telle somme d'argent. Et c'est des choses parfois qui peuvent t'écarter de la voie de Dieu et te faire rater beaucoup de choses. Concentrons-nous davantage sur le ciel dans le temps que nous vivons, bien-aimés. Parce que la réalité du jugement va se manifester. Pour certains, ça a été une histoire. Mais bientôt, ça sera une réalité. Les signes sont là. Le jugement, bien-aimé, se fera. Parce que Dieu ne conçoit pas, n'est pas d'accord avec le mal. Il n'est pas d'accord. J'ai regardé des documentaires, des films documentaires hier, où on montre des populations massacrées par des soldats, des civils. Et quand j'ai vu ça, vous savez, comme on dit en français, le sang m'est monté sur la tête, quoi. Oui, tu as envie de prendre toi aussi l'arme et d'aller combattre ces soldats-là. Et pensez comment doit être la colère de Dieu envers ces gens-là. La colère de Dieu est une réalité. Dieu sanctionnera le mal. Tous les gens qui violent les enfants, tous les gens qui tuent les enfants, tous les gens qui sont dans l'injustice. La Bible dit quand Dieu avait fait pleuvoir 40 jours pour tuer les humains, c'est parce qu'il y avait la violence sur la terre. Il y avait la méchanceté. Dieu n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'injustice. Lorsque quelqu'un a raison, on lui donne tort, parce qu'on a le pouvoir. Comme la fable le dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Dieu n'aime pas ça. C'est sa loi qui est la meilleure, la loi divine. Dieu n'aime pas l'injustice. Lorsqu'on héberge des enfants d'autrui, qu'on les fasse souffrir, parce que ce ne sont pas tes propres enfants, peut-être ton mari ou ta femme les a eus avant votre union. Dieu n'aime pas cette injustice-là. Dieu n'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est annuler la vérité. C'est pourquoi c'est écrit dans Ésaïe 5:20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal, ceux qui appellent le mal bien. » Le mensonge, ce n'est pas parce que ça ne blesse pas quelqu'un avec un comme si c'était un couteau, que ce n'est pas dangereux, c'est grave. C'est annuler la vérité. C'est faire en sorte qu'on n'ait plus de repères. C'est ça le mensonge. Or, il faut qu'on ait des repères. Le repère, c'est la vérité, c'est la Bible, bien-aimé. Dieu est contre tous ceux qui font souffrir les autres. Dieu déteste la violence. Vous savez, aujourd'hui, l'un des grands problèmes qui éloigne les gens de Dieu et qui font souffrir les gens, c'est tout ce qui est lié à la violence, les guerres, les règlements de compte. Bien-aimé, ça blesse des familles pendant 400 ans, 500, 300. Vous allez voir deux tribus qui ne s'aiment pas pendant 300, 400 ans parce qu'il y a eu guerre, il y a eu des morts. Et ensuite, les années qui ont suivi, les autres se sont vengés. Et puis les descendants des premiers se sont vengés encore. Et ça continue. La violence appelle la violence. Et dans beaucoup de pays où il y a eu des guerres, les gens sont en colère encore jusqu'aujourd'hui. Ils cherchent une occasion pour recommencer la guerre, pour se venger. La violence, c'est quelque chose de mauvais. Parce que la violence appelle la violence. Et Jésus l'explique en disant, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. La violence appelle la violence. Parce que la violence humilie les gens. Voir ton père avec les bras derrière noués et qu'on le gifle, bien-aimé, c'est quelque chose qui te marque à vie et qui te pousse à vouloir te venger. C'est des réalités. Et Dieu, quand il voit ça, quand il voit que les gens violents créent avec leur guerre ces choses-là dans le cœur des gens, Dieu dit, ces gens-là sont en train de détruire le cœur que moi j'ai formé. Un cœur pour qu'il soit bon, pour qu'il soit généreux, pour qu'il soit amour. Et ces gens-là sont jugés. Dieu jugera les mauvais actes, bien-aimés. Ne vous en faites pas. Et en particulier, celui-ci, la rébellion. Dieu jugera tous les gens qui disent que c'est mon corps, c'est ma vie. C'est à moi. Ces gens-là sont en rébellion contre Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas créés, ils se sont retrouvés sur la terre, ils osent dire c'est mon corps, c'est ma vie. Ils sont en rébellion. Donc je veux dire que Dieu nous jugera aussi parce qu'on aurait mené notre vie comme si elle était à nous. C'est comme ça que ce riche-là a été jugé. On lui a dit, mais quand toi tu étais sur terre, tu as mené ta vie librement, comme si elle était à toi. Or, elle n'était pas à toi. Aujourd'hui, tu te retrouves, puisque tu l'as menée comme si elle était à toi. Mais sauve-toi toi-même. Tu ne peux pas te sauver. Bien-aimé, il faut comprendre, le jugement, l'enfer, ce n'est pas parce que seulement Dieu est vrai. C'est ce que nous-mêmes, on sème. Si tu sèmes de l'orange, tu récolteras des oranges. Si tu sèmes du blé, tu récolteras du blé. Si tu sèmes le mal, si tu sèmes la rébellion contre Dieu, c'est la loi de la semence, tu récolteras la mort. C'est comme un tri, quoi. Donc, il y a des plantes, il y a des livrées, il y a du blé. Donc, ce n'est pas forcément que Dieu veut comme assouvir une soif de vengeance. Non, c'est nous-mêmes qui nous tuons. Le choix que nous faisons, c'est la semence que nous faisons. Le choix de mentir, le choix de vivre sa vie comme on veut, c'est un choix et ça a des conséquences. On ne peut pas vivre sa vie comme on veut et réclamer à Dieu d'être au paradis. Soyons conséquents avec ce qu'on fait. Si nous voulons réclamer des choses à Dieu, soyons de son côté. Je me rappelle que quand j'avais échoué deux fois de suite à l'université, j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Une voix m'a dit clairement, est-ce que toi tu as le droit de dire ce que tu dis là? Et la voix s'est arrêtée là. Je n'étais pas dans une église où on entend les voix, mais en tout cas, ce jour-là, j'avais entendu la voix dans ma chambre. J'étais dans une église qui ne croyait même pas au don du Saint-Esprit. Mais, comme j'avais dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une voix distinctement m'a dit, as-tu le droit de dire ce que tu dis? Et la voix s'est arrêtée là. Moi-même, j'ai fait mon calcul. Oui, j'ai mené ma vie comme je voulais. On avait même un orchestre, on chantait dans les boîtes de nuit. Donc je faisais comme je voulais. En même temps, j'étais dans la chorale. Je pensais qu'être dans la chorale et faire ce que je voulais, tu gardais un peu de tout, quoi. Un peu de Dieu, et un peu de... Bien-aimé, avec Dieu, ça n'existe pas un peu de lui et un peu d'autre chose. Dieu, ou c'est lui à 100% ou c'est rien. C'est ça la réalité, bien-aimé. Un peu de ceci, un peu de cela. Comme on a dit l'autre fois, il y en a qui veulent en même temps être un grand prédicateur en même temps Michael Jackson. Mais non, il faut choisir. En même temps, tu veux être une bonne chrétienne, une servante de Dieu, mais tu veux être en même temps Cindy Crawford, Claudia Schiffer ou je ne sais pas le nom de ces gens-là. Mais non, il faut choisir. Si tu veux être une servante de Dieu, ben tu devras sacrifier le côté Cindy Crawford. Voilà, il y aura des sacrifices. Il y a des choix à faire. Parce qu'il y aura des moments où les 30 minutes de maquillage, quelqu'un aura besoin de ça pour être sauvé par ta prière. Maintenant, si toi tu choisis de rester devant le miroir, la personne meurt. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Il y a des moments où on t'appellera à minuit, tu seras obligé de quitter chez toi. Et, mais si tu étais dans la logique française comme quoi on ne doit pas appeler les gens après 22 heures, je rigole avec ces logiques-là, moi je dis, mais les gens s'amusent avec Dieu. Quoi? Toi tu ne pries pas à 23 heures? Moi je dis, si tu te mouilles, tu veux devenir pasteur, tu prends la logique française, tu l'emballes dans un carton, tu jettes à la poubelle et le camion de d'ordures va venir prendre ça et s'en aller. Bien-aimé, il y a des gens qui m'ont appelé à 3 heures du matin qui mouraient. Et on a prié, ils ont été libérés. Maintenant, toi, pendant qu'on appelle, tu es en train de ronfler. Même le diable dit, bon, voilà, un bon ronfleur pour le royaume de Dieu. Non, bien-aimé, on ne blague pas avec Dieu. Ou tu es avec Dieu, ou tu es dans ta logique. Nous serons jugés parce que nous avons décidé de nous comporter selon notre logique. Il y en a qui disent, mais ça ne se fait pas. On n'appelle pas à 7 heures. Qui a dit ça? Cherchez-moi ce verset-là où on n'appelle pas à 7 heures. Quand nous allons dans les urgences, il y a des médecins qui nous attendent. Et autrefois, dans les villages, il n'y avait pas des urgences. On appelait les médecins à 1h du matin. Si le médecin qui était païen s'est levé à 1h du matin pour sauver quelqu'un, et toi le chrétien maintenant, où est la différence? Jésus a dit que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Des pharisiens, c'est déjà des religieux. Jésus nous demande que notre justice soit supérieure à celle des religieux. À combien plus forte raison à celle des païens? Si les païens sont prêts à se réveiller à ces heures-là, si, vous savez, il y a des gens qui sont pompiers volontaires. C'est-à-dire qu'on ne le paye pas. Mais il est prêt quand toi tu brûles dans ta maison d'entrer, de prendre le risque de mourir et de te sortir. Et toi, tu peux sortir vivant, lui meurt. Combien de pompiers ne sont-ils pas morts? Mais c'est des païens. Aujourd'hui, le chrétien veut avoir une vie de confort sur la terre difficile. Non, c'est le contraire de la Bible. Jésus dit aux riches, il dit, toi, quand tu étais sur la terre, tu as vécu comme un riche. Tu t'es pas occupé des pauvres. Tu avais des gardes du corps. Tu étais sécurisé. Mais lui, il était insécurisé. La Bible dit que les chiens sont corps. Toi, tu étais en sécurité. Aujourd'hui, lui, il est consolé. Voilà. Et avec la logique qu'on voit aux États-Unis, le chrétien client, le chrétien, tout va bien. Bien-aimé, ce n'est pas la logique biblique. La logique biblique, c'est le sacrifice. On s'offre pour le salut des autres. Parce que nous serons un jour consolés. La Bible dit que Dieu essuiera nos larmes. Nous avons 120 ans difficiles à passer, mais avec la grâce de Dieu, nous arrivons à la passer agréablement. Mais il y a des difficultés. Mais après ces 120 ans, nous connaîtrons des milliards d'années éternelles, tranquilles, dans la paix totale. Autant investir, autant semer pour récolter au ciel, au lieu de s'accrocher et investir dans le mal, investir dans l'égoïsme, investir dans des logiques fausses qui ne sont pas bibliques et récolter l'enfer, bien-aimé. C'est ce qui est écrit. Toi, Jésus dit aux riches, tu as fait comme tu voulais. Mais lui, il était bloqué, coincé. Le monde l'a fait souffrir. Toi, tu dirigeais le monde, mais lui, il a subi le monde. Aujourd'hui, il est consolé. Parce que les gens se créent des excuses. Comme ce riche-là, il pouvait se dire, mais non, je ne vole personne. Je fais mes transactions honnêtement. Donc, je suis bien. Mais non, tu as mené ta vie comme si elle était à toi. Ça, Dieu ne peut pas le supporter. Parce que ce n'est pas ta vie, c'est sa vie à lui. Et beaucoup seront surpris à cause de cela. Bien-aimé, le jugement est une réalité. C'est une réalité. Nous allons lire dans Romains 1:18. La Bible dit dans Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Voilà la parole de Dieu. Le Seigneur dit que sa colère est suspendue au-dessus de tous ceux qui cachent la vérité. Quelle est la vérité que les gens cachent? La vérité que Dieu existe, qu'il est Dieu, qu'il jugera, qu'il est bon. Dieu dit que cette vérité-là, il la cache. Ce n'est pas qu'ils ne la savent pas. J'ai donné déjà deux points. Le premier point, c'était Dieu jugera à cause des violences, des mauvaises choses que les gens font les uns sur les autres. Deuxième chose, c'était parce que Dieu jugera à cause du fait que beaucoup gèrent leur vie comme si elle était à eux. C'est du kidnapping, c'est du vol. Troisièmement, Dieu jugera parce que les gens injustement, nous venons de lire, ils retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc Dieu jugera parce que lui, il sait que tout homme sur la terre a reçu un minimum de connaissance de Dieu dans son cœur. Je dis bien tout homme. Maintenant, les hommes s'emploient à enfermer cette vérité-là, à l'oublier, à la mettre de côté, à faire comme si elle n'existait pas, à la tuer pour ne plus rien ressentir et prétendre que, ah oui, mais personne ne m'avait parlé de Dieu. Ah oui, mais on m'avait parlé de Dieu sans conviction. Non, bien-aimé. Et ce sont les excuses que nous-mêmes on fait pour les autres. On se dit, bon, c'est vrai qu'il est dans un contexte où il ne peut pas vraiment croire en Dieu. C'est vrai, il est entouré de telles personnes. C'est vrai, on ne lui a pas donné la vraie parole. Mais le verset que nous venons de lire nous dit que non. Tout homme sur terre a un minimum de connaissances des vérités et que la plupart prennent cette connaissance, ils l'enferment, ils l'emprisonnent. Ils ne veulent pas la mettre en face de leurs yeux parce que ça les obligera à chercher Dieu. Ça les obligera à se poser des questions. Ça les obligera à s'humilier. Ils ne veulent pas. Et Dieu nous montre cela en disant ceci. Il dit que comment se fait-il que ces gens-là adorent la créature au lieu du créateur? Tu vas te dire, mais oui, mais moi je ne me prosterne pas devant le soleil. Si, quand l'été arrive, nous voyons les embouteillages vers l'autoroute du sud, hein, on appelle même ça autoroute du soleil. Autoroute du soleil. Et on a trouvé un mot scientifique, héliotropisme, pour expliquer l'amour pour le soleil. Alors tu vas dire, bon, moi je suis héliotrope, c'est tout. Non, adorateur du soleil. Vous savez, aujourd'hui, même si on a du mal à avoir un bon été, hein, vous savez, la température a du mal à augmenter, mais les gens forcent. Alors, quelqu'un il fait un peu froid, mais comme c'est le 11 juillet ou le 25 juillet, il met des jupes compliquées pour forcer l'été, bien-aimé. Non. Dieu est en train de nous aider. Nous, on veut forcer l'été. De t-shirts compliqués, de trucs transparents pour faire passer l'air, comme on dit, bien-aimé. Non, ne force pas l'été. C'est de l'adoration. S'il n'y a pas d'été, ce n'est pas grave. Dieu est là. Voilà. L'héliotropisme. Les gens, les adorateurs de fleurs, les adorateurs des bijoux, les adorateurs du football. Dieu dit, vous adorez ce que moi j'ai créé. Ce que moi j'ai créé et moi vous me mettez de côté. Et vous dites que vous ne me connaissez pas. C'est faux, vous me connaissez. Les adorateurs de la science. Or, la science ne fait que découvrir ce que Dieu a déjà fait. Et moi, vous me mettez de côté, Dieu dit. Ça, c'est à cause de ça que je vous livre à vous-même. Bien aimé, tout ce qu'on voit là, l'homosexualité, la pédophilie, les échangistes, les nudistes, tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas voulu de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu les a livrés à leur passion infâme. Il y en a même qui s'amusent à sauter d'un pont pour ne pas chuter, quoi. Donc, on lui met une corde, mais tout ça, il n'a rien à faire. Il est devenu un animal. Il ne sait pas quoi faire. Donc, il va sauter pour ne pas tomber. Mais il y en a qui sont tombés. Et voyez les conséquences. Et quand j'ai vu à la télé, un homme, on l'interviewait aux infos, c'est écrit, quand on parle à un homme, on met son titre à côté, et le titre, c'était « Grimpeur international », moi, j'ai dit. Alors là, donc cet homme-là, donc son travail, c'est grimpeur. Il grimpe les arbres et les immeubles. Mais non, c'est quoi? C'est Dieu qui les a livrés à leur passion inutile. Quelqu'un qui devient un grimpeur. Donc vas-y, va grimper. Et donc, des gens qui vont sur les montagnes, ils font de l'alpinisme. Il n'y a même pas de guerre, tu veux aller où? Bien-aimé, tu vas mourir tout seul comme ça dans une avalanche alors qu'il n'y a pas de menace. Il n'y a rien du tout. Parce que les gens ont perdu la raison. Pourquoi ils ont perdu la raison? Parce qu'ils ont négligé Dieu. Ils n'ont pas voulu s'humilier, reconnaître que Dieu existait. Et Dieu les a livrés à des passions inutiles, infâmes, bien-aimés, infâmes. Il y en a qui sont esclaves. On l'a déclaré, ce problème-là, maladie. Esclaves des jeux dans les casinos. C'est devenu une maladie. Il est obligé de jouer. Il est obligé. Il ne peut pas tenir l'argent. Il faut qu'il aille jouer. C'est devenu une maladie. Dieu a livré tous ceux qui ne croient pas en lui à toutes ces maladies-là. Il y en a qui ont presque une maladie. C'est écrit, quand tu fais ces choses-là, tu attrapes l'épilepsie. Ils sont là 5 heures du temps devant les jeux vidéo. Moi, j'ai dit, mais tu gagnes quoi? Bien aimé, j'étais semi-chrétien, semi-païen. J'avais joué à ces choses-là. J'ai dit non, même en tant que semi-païen, là, ça commence à bien faire. 5 heures du temps, Alex de Kid, ça ne finit pas. Il y a toujours de nouveaux pièges. J'ai dit non. Donc toute la nuit, donc il y a toujours. On faisait toute la nuit, donc il fallait qu'il arrive à un endroit, qu'il découvre quelque chose. Et ça ne finissait pas, bien aimé. Ça faisait des mois qu'on jouait à ce jeu-là pour arriver au sommet. Mais on n'arrivait toujours pas. 5 heures du temps. J'ai dit là, ça commence à bien faire. Je préfère occuper mon temps à dormir ou à faire autre chose que... Bien aimé, c'est la réalité. Les gens disent, on n'est pas là dans un débat. Est-ce que c'est un péché ou pas? Est-ce que c'est utile? Ça te sert à quoi? À la fin des temps là, où Jésus revient. Il y a même des pasteurs qui sont attachés à ça. Ça, au lieu de prier, bien-aimé. Non! Ça te sert à quoi? La question est là. Aujourd'hui que tu prends conscience du jugement de Dieu, sache que les gens que tu vois au dehors, à qui tu avais donné des justifications, vous savez, on a donné des justifications dans nos cœurs pour ne pas évangéliser les gens. Mais quand même, Dieu n'est pas assez méchant pour qu'il y ait tout ce nombre-là qu'il y a dans l'enfer. Mais Dieu quand même. Alors, on s'est calmé nous-mêmes. Et comme ça, on va travailler moins. Oui, Dieu va quand même comprendre. Et on s'est donné des fausses raisons. La Bible nous donne la vérité. La vérité, c'est que la colère de Dieu est sur eux. Parce qu'en réalité, tout le monde connaît Dieu. Nous ne sommes plus dans un temps où personne ne connaît pas Dieu. Nous ne sommes pas dans le temps où on adorait les arbres, les forêts. On n'est plus vraiment dans ce temps-là. Tout dans le monde entier, aujourd'hui, quelqu'un a déjà entendu parler de Dieu. Même s'il n'entend pas Jésus directement, mais de Dieu. Mais surtout, Jésus l'a déjà entendu. Ils ont déjà entendu. La vérité, ils veulent la cacher. Les gens ont entendu parler de la vérité, des gens qui se comportent bien, de la pensée de Dieu. Les gens ont entendu parler de Jésus. Et ils seront jugés parce qu'ils cachent cette vérité-là. Ils veulent faire croire qu'il n'y a pas de vérité. Tout est relatif. C'est faux. Tout n'est pas relatif. Il y a une vérité absolue. Cette vérité absolue, c'est la Bible. C'est elle qui dit les choses telles qu'elles sont. Elle dit ceci, que dans le cœur de chaque homme, il y a la vérité. Mais en faible quantité, mais suffisant pour l'amener à aller vers la grande vérité qui est la Bible, qui est Jésus. Et tous ceux qui font semblant, comme s'ils n'avaient pas cette petite vérité-là, eh bien, ils décident leur destination finale, qui sera le feu éternel. C'est le moment de ne plus nous donner des excuses et de ne pas donner des excuses aux autres. On doit leur présenter Jésus selon la conduite du Saint-Esprit. On doit leur présenter Jésus selon notre comportement. Mais on doit se consacrer à parler de Jésus, à vivre pour Jésus, afin que les autres soient sauvés. Parce que les temps sont durs. Parce que les gens seront vraiment jugés. Ce jour-là, quand tu verras la réalité du jugement, tu regretteras de n'avoir pas passé ton temps sur terre à travailler pour le salut. Il y a un mois, je dormais, j'ai eu la vision du jugement. Et j'ai fui. Donc j'étais dans la vision. Je n'étais pas parmi les gens qui devaient être jugés. Juste le fait de voir le visage de Dieu en colère par rapport à ces hommes-là qu'il allait juger, j'ai dit, mais ces choses-là, c'est donc comme ça. Je me suis écrié comme ça. Alors, sa colère est donc comme ça. Et je me suis tourné, j'ai fui. Tellement sa colère est grande. Je me suis réveillé. J'ai dit, mais c'est grave le jugement de Dieu. Malheur à quiconque devrait passer par là. C'est pourquoi le verset de Jean 5, 24 est très important. Jésus dit, celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé ne passe pas en jugement. Ça veut dire que le simple fait de se présenter devant la colère de Dieu, même avant qu'il ne parle, c'est déjà un spectacle grave. Difficile, dur. Moi, je n'ai pas pu tenir dans cette vision-là. J'ai fui. J'ai dit, sa colère est donc comme ça. J'ai fui. Je l'ai laissé face aux gens qui allaient le juger. On croit qu'on peut se mettre à côté de Dieu. Mais Dieu en colère, personne ne peut se mettre à côté de lui. C'est impossible. Ça détruit tout aux environs. Je n'ai pas pu soutenir cette colère. J'ai fui dans la vision. Bien-aimé, c'est une réalité, le jugement. Ce jour-là, Tu regretteras de n'avoir pas dit, Seigneur, je veux donner ma vie pour que d'autres soient sauvés. Et la raison la plus grave pour laquelle Dieu va juger les gens. Comme on n'a plus le temps, il ne nous reste que 10 minutes, c'est Jésus. C'est la raison la plus grave. Ça veut dire ceci. Dieu a permis que son propre fils soit frappé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire sur Dieu? Qu'il n'est pas bon pour toi. Dieu va te dire, mais tu voulais que je fasse plus que quoi? Mon propre fils, il s'est fait crucifier pour que toi tu sois sauvé. Tu voulais que je fasse quoi? Les gens qui disent, mais Dieu est amour, il ne peut pas permettre telle chose. Mais Dieu a permis que son fils soit maltraité. Vous savez, j'écoute un chant où le chanteur dit, le Créateur est jugé par la créature. Vous vous imaginez ce spectacle-là où Jésus-Christ est jugé par Pilate, alors que c'est lui qui a créé Pilate. Mais Jésus a supporté ça. Vous vous imaginez quelle colère à venir. Quelle colère. La Bible appelle la colère de Dieu, c'est comme une coupe, un récipient, ça rajoute. Pendant que le Créateur, il est devant Pilate, qui lui dit, tu ne sais pas que je peux te tuer. Bien-aimé, imaginez que ton petit frère de 8 ans ose te dire, grand frère, je vais te taper. Vous vous imaginez la colère? Vous imaginez? Bien que tu entendes à l'école ton fils dire, ou bien à quelqu'un, oui, mon père est sale. Et là, Jésus est là, jugé par Pilate. Quoi? C'est lui, le vrai juge, mais il est jugé lui-même. Et après, on le passe chez Hérode. Après, on le ramène encore chez Pilate, comme une marchandise. Après, on lui met la couronne d'épines. On le fouette. Lui, le Dieu vivant, le Fils de Dieu, à cause de ça, bien-aimé, les gens seront jugés sévèrement. Vous savez, quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il a dit par rapport à lui. C'est-à-dire, les gens ne savaient pas qui était vraiment Jésus comme il faut. Et ils s'étaient trompés. Mais les gens savent bien ce qu'ils font en étant méchants. Voilà. Ils ne savaient pas qu'exactement, il fallait que Jésus meure pour leur bénéfice. Personne ne le savait bien, même ses propres disciples. Mais les gens savaient qu'en tuant Jésus, en disant crucifiez-le, ils savaient qu'ils étaient ingrats. Ils savaient qu'ils étaient méchants parce que Jésus avait multiplié les pains pour eux. Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne savent pas que c'est pour leur bien que je meurs. Ils ne savent pas qu'ils contribuent au salut de l'humanité en me tuant. Mais ils étaient malhonnêtes, ingrats, mauvais. Et la Bible dit, quiconque néglige le sacrifice de Jésus-Christ ne comprend pas ce que Dieu a fait pour son propre fils. Bien-aimé, si Dieu n'a pas eu pitié de son fils parce qu'il devait porter sa colère, et il aura pitié de qui? Dites-moi, si la colère de Dieu a été si grande pour frapper son propre fils, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Lui qui n'avait rien fait, qui était correct toute sa vie, imaginez celui qui dit que Jésus-Christ, c'est zéro. J'ai l'habitude de poser la question suivante. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus? Que peut-on reprocher à Jésus? La personne qui critique Jésus, posez-lui la question. Que peux-tu reprocher à Jésus? Il n'aura rien à dire. Jésus ne s'est pas enrichi. Jésus ne s'est pas fait faire beaucoup d'argent. Jésus-Christ n'a pas eu de femme. Jésus-Christ n'avait pas un château. Toi qui refuses Jésus, dis-moi, tu lui reproches quoi? Et Dieu sera là sur son trône. Tu te présentes. Pourquoi tu n'as pas accepté Jésus? Il te posera la question. Tu lui as reproché quoi? Tu seras bloqué devant le jugement. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule voie, c'est Jésus. Même en tant que chrétien, ne te crée pas de théorie. La seule théorie qui existe, c'est la ressemblance à Jésus. Il n'y a pas d'autre christianisme. C'est la ressemblance à Jésus. Pose-toi la question, dans chaque acte que tu es en train de commettre, c'est la ressemblance à Jésus ou pas?
Pose-toi cette question-là. Dans chaque acte. Car la Bible dit dans 1 Pierre 4, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ça commencera dans la maison de Dieu. Dieu va trier. Pose-toi la question. Chaque acte que tu commets, à quoi ça sert? Est-ce que ça, comme j'ai appris, les jeunes ont voulu imposer qu'on pouvait faire des bisous avant pendant les fiançailles. Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus ou pour la gloire de qui, bien-aimé? Pose-toi les questions. La théorie là que tu défends, c'est pour la gloire de qui? Bien-aimé, je vais clôturer par ce passage qui est difficile. Hébreux 10. La Bible dit, à partir du verset 26, Hébreux 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Voilà ce que dit la Bible. C'est une chose terrible. Je vous ai dit que je n'étais pas parmi ceux qui étaient jugés, mais j'ai fui. Rien qu'en voyant sa colère pas sur les autres, j'ai fui moi, qui n'étais pas concerné. Et l'apôtre Paul le dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu porte la souffrance de son Fils. Et maintenant, si quelqu'un néglige en disant oui, mais le péché, mais même beaucoup trop de pression. Oui, mais la Bible dit, va vers Jésus, il t'aidera. Tu négliges ça. Ah oui, mais il y a trop de plaisir dans ce monde. La Bible dit, va vers Jésus, il t'aidera. Oui, mais il y a les gens qui nous énervent trop. Va vers Jésus, il t'aidera. Bien-aimé, celui qui néglige Jésus, tu vas parler au nom de quoi? Dieu te dira, j'ai tout fait. Mon propre fils est mort à la croix. Qu'est-ce que tu veux me dire, bien-aimé? Vous savez, j'ai vu les photos de mon fils quand je vais les effacer. J'ai vu les photos de mon fils quand on était à l'hôpital ensemble. Bien-aimé, la colère est montée là. Parce que les circonstances... voilà, il y a des gens qui étaient derrière. Mais la colère est montée là. J'ai dit, et c'est là que j'ai réfléchi. J'ai dit, mais... quelle est la colère de Dieu quand il revoit? Parce que Jésus n'a pas perdu ses marques. Ses marques sont là. Quand il regarde encore les marques de Jésus, la Bible dit, il y a l'ardente colère de Dieu qui attend le jour où il se vengera. Et tous ceux qui auront négligé le sacrifice de Jésus, bien-aimés, Dieu se vengera un jour. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait mal à Dieu plus que la mort de son fils. Ça lui a fait très mal. Obligé de ne pas intervenir. Mais il fallait nous sauver. Mais quiconque néglige maintenant Jésus-Christ, où se retrouve-t-il? Bien-aimé, attention aux excuses qu'on se fait ou qu'on fait aux autres. Attention, il n'y a qu'un seul juge, c'est l'Éternel, et il jugera en fonction de sa parole. Que Dieu nous bénisse.